Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons terminer aujourd'hui le livre « Vivre à Hébron » de June Levitt aux éditions Robert Laffont. Et pour introduire le texte du jour, je veux seulement relire la quatrième de couverture de ce livre. C'est une sorte de résumé. Alors, écoutez. June Levitt fait partie de cette poignée de colons juifs installés à Hébron au cœur des territoires occupés. Venue des États-Unis pour y chercher la terre promise, elle n'a trouvé qu'une terre de danger, une vie de douleur et d'isolement, une réalité vide de tout idéal. Et June témoigne. Dans son journal, elle raconte la terreur au jour le jour, les amis déchiquetés par les attentats, l'escalade de la folie meurtrière. Elle a vu Baruch Goldstein, son voisin, sortir un matin de chez lui pour abattre 29 musulmans en prière dans le caveau des patriarches. Elle a entendu ses fils approuver ce massacre et son mari le condamner. June décrit aussi la fraternité précaire d'une communauté en état de siège, entassée dans des logements cernés de barbelés. June se raconte. Avec ses doutes, ses déchirements, son amour toujours plus profond pour les siens et son indomptable élan spirituel. Ce livre, c'est un document d'une lucidité et d'une authenticité exemplaire. Un récit bouleversant. Et nous en lisons maintenant les dernières pages. 24 mai. Au fur et à mesure que s'éloigne la terre promise des Juifs, les choses se modifient et deviennent de plus en plus sombres. Rabin est d'accord pour faire de Jérusalem-Est la capitale de la Palestine, ce qui va repousser pour une éternité la reconstruction du Saint-Temple. Le mur ouest du Temple est dans Jérusalem-Est. Qui en aura le contrôle ? Rabin et Hafez al-Assad sont d'accord pour négocier une paix. Les termes de la discussion sont « Nous abandonnons le Golan et les Syriens y établissent une base de surveillance dans notre zone de sécurité. » Les troupes israéliennes à partir du 1er juillet se retireront de la Judée-Samarie, d'abord de Bethléem et puis d'Hébron. Certains prédisent que cette partie d'Israël deviendra comme Beyrouth, avec l'OLP luttant contre le Hamas pour le pouvoir, et tous les deux accroissant encore le terrorisme contre les Juifs pour prendre le contrôle de la totalité de la Terre Sainte. En face de quoi, nous sommes parfaitement impuissants. Nous avons contre nous le gouvernement et ces 32% de Juifs qui, dans un récent sondage, déclarent qu'ils voteront à nouveau pour Rabin. 12 juin. Beaucoup sont malheureux de la situation. Beaucoup de personnes très sensées et logiques pensent que ces jours sont les pires qu'Israël ait connus. Mais, lisant un ouvrage du 15e siècle, je vois que déjà, certains pensaient alors vivre les jours les plus noirs de l'histoire. Dans un texte du 16e, je trouve cette phrase « Rien ne fut jamais pire qu'aujourd'hui ». Cela voulait être dit peut-être pour l'éternité, mais en vérité, c'est le mécontentement qui est éternel. Mais aussi, comment est-il possible d'être heureux comme le livre le demande ? 16 juin, Avraham Arieli, 21 ans, du quartier de Beth Hadassah dans Hébron, a été poignardé. Ses jours sont en danger. 26 juin. Peut-être le temps est-il venu pour notre famille, plutôt que de se soucier uniquement du devenir d'Israël, de trouver un lieu où planter notre graine et où il soit possible de la voir grandir. Mais le gouvernement fait disparaître la terre d'Israël comme une peau de chagrin. Il reste de moins en moins de place pour faire pousser 3 carottes. Les bulldozers creusent pour de nouvelles constructions. Les kibboutz sont expropriés pour être remplacés par des industries. Et le désert de Judée lui-même est sur le point de se transformer en un réseau d'autoroutes. La côte ouest retourne aux Palestiniens, le Golan aux Syriens. Dans ces conditions, où planterons-nous nos graines et comment pourrons-nous appliquer en conscience tous les commandements liés à la terre? Et pourtant, Franck et moi n'étions pas arrivés ici pour autre chose, devenir des pionniers, retrouver notre lien physique et spirituel avec la terre, notre terre. Tout comme le peuvent partout ailleurs les non-juifs, au bout du compte et dans ces conditions, que sera Israël pour nous, pour nos enfants et leurs enfants? Rien qu'un coin de monde où nous ne faisons que passer. Même les tigres ne parviennent pas à survivre ici. Nous avons appris à la réserve naturelle d'En Gedi que des tigres qui avaient prospéré dans le désert de Judée depuis que le grand rift africain s'était formé, il n'en reste plus que 2. Et ce sont 2 mâles. La dernière femelle fut tuée il y a 1 mois par des soldats en patrouille. Elle s'était approchée trop près d'eux et ils ont pris peur. En fait, selon le gardien du parc, cette bête aimait les humains et avait confiance en eux. Ce qui me mine ces jours-ci, c'est que je sens le monde entier devenir plus vieux et plus las en même temps que moi. Tigres ou juifs, respectueux de la tradition, nous dépérissons en nous éloignant de plus en plus de la lumineuse et originelle inspiration de la création. Je crois profondément en Dieu. Je crois très peu en Israël. Un juif, une juive, peuvent-ils croire en Dieu sans croire en leur terre? Ou Israël signifierait-il autre chose? Le lieu où nous allons après notre passage ici? Un autre royaume du devenir? Un juif peut-il trouver Dieu par lui-même ou nous faut-il absolument en passer par cette nation damnée? Je sens sur ma propre vie la présence de la divine providence, mais ces jours-ci sur Israël, je ne la vois nulle part. 30 juin. Nous avons entendu la police annoncer un couvre-feu sans en connaître la raison. À 7h30, Franck a voulu sortir de Kiryat Arba par la porte de Beersheba, où on lui a dit que la route était fermée. Les cars ne roulent plus. Puis on a annoncé que les liaisons d'autocars avec Jérusalem reprendraient 2 heures plus tard, mais en passant par un itinéraire totalement différent. Finalement, notre voisin du dessus, un vieux rabbi, est venu nous apprendre la bonne nouvelle. Le chef du groupe terroriste d'Hébron, Kapisha, le responsable de la mort de tant de nos voisins, vient d'être abattu dans une fusillade avec une unité spéciale de l'armée. Quand la route de Jérusalem a finalement été rouverte, Esti a pris le car et a vu les bulldozers de l'armée qui rasaient 2 maisons arabes. Nous avons tous le sentiment d'un peu de lumière retrouvée, que la justice a enfin frappé et que les meurtriers arabes ont trouvé leur punition. On se sent un peu réconforté. Il faudra quelque temps avant qu'un nouveau groupe terroriste puisse s'implanter dans Hébron. 3 juillet. Alors que le gouvernement parle de démanteler les bases militaires de Samarie, des rabbins très influents déclarent que les soldats ne devraient pas suivre ces ordres. Selon la Torah, il est défendu de donner Israël à quiconque, puisque c'est la terre que nous avons reçue de Dieu en héritage. 21 juillet. De fait, le gouvernement livre la moitié de Jérusalem aux Arabes. Dans Jérusalem-Est, ils n'ont plus à payer d'impôts à Israël, mais directement au gouvernement autonome palestinien de Gaza ou de Jéricho. Nous avons développé ce pays pour eux. Nous les avons pris comme travailleurs. Nous les avons financés et armés avec les Kalachnikovs pris dans la guerre au Liban. Et aujourd'hui, des médecins qui travaillent avec Franck et des professeurs de médecine vont au Caire pour rencontrer le frère d'Arafat et l'aider à mettre sur pied un ministère palestinien de la santé. Bientôt, la tombe de Rachel sera, elle aussi, arabe. On dit que depuis toujours, Rachel pleure ses enfants. Une allusion à Jérémie 31, les versets 15 à 20, où Rachel, épouse de Jacob, est représentée près de sa propre tombe, pleurant sur ses enfants dispersés. Qui désormais entendra Rachel et prendra soin d'elle? L'histoire s'accélère. Nous sommes les témoins d'une évolution terrifiante qui apporte la fin de nos jours. Hébron est calme maintenant, surnaturellement calme. 22 juillet. Ce matin, jour de Shabbat à Hébron, pour la bar mitzvah de Chaim Bleicher. Nous avons pu voir par nous-mêmes comment la police s'y prend pour provoquer les colons. Des policiers entassés dans des fourgons, le regard hostile, ostensiblement d'ailleurs, patrouillent dans les rues où seuls les Juifs se déplacent. Anat nous a montré les marques des coups qu'elle a reçus. La semaine dernière, lorsque la police se mit à frapper Rivka Zarvid, après avoir tabassé et arrêté son fils, Anat s'est interposée et elle fut frappée à son tour. Averti qu'on avait frappé sa femme, Abraham Zarbiv accourut et s'adressa au policier fautif. « Tu as touché ma femme ?»« J'ai tabassé ta femme, » gloussa le policier. « Chaque nuit, je m'amuse à tabasser quelqu'un. » Personne ne croit les Juifs qui se plaignent des brutalités de la police. Même ici, les gens ne veulent pas le croire. Mais il est évident que les policiers cherchent par tous les moyens à provoquer des incidents afin de pouvoir ouvrir le feu sur les colons, prétextant ensuite avoir été agressés par des fanatiques religieux. Ils créent des situations à n'importe quel mari insulté et hors de lui en voyant sa femme molestée et qui tenterait de tirer sur un policier. Ensuite, ce serait encore plus facile pour le gouvernement de justifier notre évacuation au nom du retour à l'ordre. Cette semaine, une juive de Hébron faisait ses courses dans le marché arabe. Les soldats l'arrêtèrent, lui interdisant de circuler dans le marché. Comme elle voulait malgré tout acheter ses légumes et ses fruits, ils la menacèrent de prendre des photos d'elle et de la dénoncer à la police comme agitatrice. Alors que nous revenions à la maison, nous entendîmes soudain de nombreuses sirènes de police. On demanda à un soldat ce qui se passait. « 4 colons armés viennent d'entrer dans la Casbah, » dit-il. « Dans la Casbah ? Mais on y va tout le temps pour faire des achats !» s'écria Franck. « C'est là la volonté du gouvernement, rendre impossible toute relation naturelle entre Arabes et Juifs, détruire jusqu'au bout la coexistence d'autrefois. Ce que j'écris là semble incroyable. Les Juifs contre les Juifs. Mais quand les gens commencèrent à dire la vérité sur les chambres à gaz, on ne voulut pas les croire non plus. Personne ne veut croire ce qui dérange la routine tranquille de la vie. On préfère aller au travail sans maux de tête. 23 juillet. Aujourd'hui, un membre du gouvernement a déclaré qu'Israël était prêt à abandonner Hébron. Maintenant, c'est clair. Les agressions et les provocations de la police contre les Juifs d'Hébron n'ont d'autre but que de nous affaiblir et vaincre notre résistance pour qu'on abandonne les colonies de nous-mêmes. Trop de douleur. Trop de douleur partout. Une amie, une convertie qui a quitté sa famille, son pays, sa religion, pour se joindre aux Juifs d'Israël après avoir élevé ses enfants dans le judaïsme, vit aujourd'hui misérablement. Elle n'a aucun moyen de revenir en arrière. Elle confie « Je n'ai pas de maison, mon chez-moi n'est qu'un appartement décrépit. Et où pourrais-je aller ? Mes parents m'avaient conseillé de ne pas partir. Ils disaient « Les Juifs pleurent tout le temps sur eux-mêmes. Ils sont tout le temps tristes et c'est la seule religion où meilleur tu deviens, plus on te punit. Comme on dit, plus dur sera l'examen que Dieu te fera passer. Eh bien, moi, il faut croire que je l'ai raté l'examen. » 24 juillet. Comme l'explique le Livre Saint, la spiritualité ou le mysticisme, ce n'est pas respirer de l'encens, ni agiter une clochette ou se mettre dans la position du lotus enveloppé dans une robe safran. La spiritualité est dans tout ce qui va et advient dans ce monde et dont le sens nous est tenu secret. Dans ce monde-ci, tout le sens est présent, quel qu'il soit. Nous sommes, dit-il, dans le chemin du juste. Seulement, dans le vestibule qui mène au monde à venir, ce matin, un arabe s'est fait exploser dans un autobus dans la banlieue de Tel Aviv. 7 morts et 6 blessés. 2 août. Le gouvernement a fait taire la station de radio de droite, Arutz 7. Bagarre à la Knesset sur ce dernier acte de fascisme de la part d'un pays qui se déclare le seul État démocratique du Moyen-Orient. août. Grande agitation. Frank va demain à Gaza avec son ami et collègue du Japon et un professeur de l'Université d'Hébron. Ils sont invités par le gouvernement provisoire palestinien en vue d'une coopération entre les universités de Tsohuba, d'Hébron et de Beersheba pour la mise en œuvre d'un programme de bioéthique dans les écoles arabes. Frank pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de développer de bonnes relations avec les Arabes. Nous aurons bientôt un État palestinien sous notre nez, même si, ici, certains croient encore qu'ils pourront empêcher la création de la Palestine par des manifestations. Demain, à 5h30, et ensuite tous les jours, À la même heure, les colons occuperont tous les carrefours importants et les routes qui mènent aux colonies. La haute cour d'Israël vient d'accorder aux Juifs le droit de prier sur la colline de Sion. Mais lorsque des gens allèrent au temple, ils furent reçus par une pluie de pierres. La police intervint et chercha aussitôt à faire partir les Juifs. Ils résistèrent et demandèrent aux policiers d'arrêter ces Arabes qui lançaient les pierres. Mais non, ce sont eux qui furent arrêtés. 9 août. Hier, Franck, notre fils Yossi, le professeur Daryl, ma sœur, sa femme, et le professeur arabe d'Hébron sont donc entrés dans Gaza. Ils se sont présentés au poste de contrôle d'Arès avec une lettre du doyen du collège médical de l'université de Beersheba. Comme rien n'avait été organisé avec l'armée israélienne, dans un premier temps, Franck et Yossi furent retenus. Puis, un officier supérieur leur donna l'autorisation de passer et une jeep de l'armée les transporta à travers le No Man's Land jusqu'au poste de contrôle palestinien. Là, un gros véhicule de police bourré de policiers et une voiture civile les attendaient. Ils traitèrent Franck et Yossi comme un chargement précieux, les faisant monter dans le fourgon de police tandis que les autres s'entassaient dans la voiture. Ensuite, ce fut une cavalcade à plus de 120 km à l'heure, sirène hurlante à travers le trafic. Pendant ce temps, je me rongeais les ongles à la maison, me demandant pourquoi il me fallait toujours avoir peur et pourquoi nous devions être en première ligne. En fait, la rencontre se passa bien. Les leaders palestiniens de Gaza sont des gens cultivés et très soucieux de leur peuple. La pauvreté là-bas est incroyable. Juste avant la rencontre, leurs hôtes les ont conduits à travers Gaza. Ils étaient très fiers d'une petite île de verdure au milieu d'une route, avec des arbres, des buissons et une aire de jeu où des enfants s'amusaient gaiement. En réalité, les Palestiniens se sont montrés très intéressés par ce que Franck et ses compagnons avaient à leur proposer. La prochaine étape est un rendez-vous à Ramallah avec le ministre palestinien de l'Éducation. Franck dit « C'est notre travail de leur permettre de progresser et d'en finir avec les fanatiques. » À moi, c'est le retour à l'angoisse. 11 et 20 août, quelques jours au bord d'une rivière. En forêt, un peu pour se nettoyer la tête et respirer. Mais en fait, ce ne fut pas si paisible que ça. Esti s'est blessée au pied en escaladant un rocher. Une grosse coupure à l'orteil, mal soignée par un premier médecin, s'est infectée au point qu'elle dut prendre des antibiotiques. Finalement, au bout de 5 jours, un second médecin l'a soignée correctement, mais elle pouvait à peine marcher. Et nous sommes restés tranquilles, pêchant, nous baignant et écoutant le frémissement des feuillages. C'est seulement en fermant les yeux et en ne voyant plus les arbres que j'ai pu communiquer avec Dieu. Il semble qu'il ne veuille pas que nous soyons trop attachés à la nature. L'après-midi du Shabbat, nous étions tous anxieux du retour à la maison. Trop anxieux, je suppose. Dans la nuit de samedi, Franck fut malade, vraiment très mal, empoisonné par une nourriture avariée. Et en pleine nuit, l'entendre vomir tripes et boyaux, nous n'étions pas très rassurés. Le lendemain, il allait un peu mieux. Nous avons levé le camp à la hâte et cette fois plutôt contents de rentrer. Mais, en plein cœur du territoire autonome palestinien de Jéricho, le moteur de la voiture rend l'âme. Et nous voilà, Franck toujours en mauvais état, les seuls Juifs à perte de vue, bloqués au bord de la route. J'arrête un policier palestinien et lui explique la situation. Il prend Yossi avec lui et l'amène jusqu'au prochain garage. Je mémorise la plaque d'immatriculation de la Jeep pour le cas où nous ne les reverrions pas. Mais quelques cheveux blancs plus tard, il est bel et bien de retour avec le policier et un mécanicien arabe. Après avoir jeté un coup d'œil au moteur, le mécanicien dit qu'il ne peut rien faire ici au bord de la route sans ses outils. Et il s'en va pour aller chercher une dépanneuse. Une heure et demie plus tard, la voiture était dans un garage de Jéricho où le policier nous avait tous amenés avec sa Jeep. Première surprise. Le Jéricho que nous voyons nous rappelle l'Hébron d'autrefois. Chaud, paresseux, paisible, sans tension, un calme si grand que nous étions même l'attraction du jour. Les Arabes s'arrêtaient pour voir ce qui se passait et donner leurs avis sur l'état du moteur. Aucune hostilité, seulement le désir très sincère de nous venir en aide. En fait, aucune des voitures juives qui passèrent ne s'arrêta et nous avons trouvé plus de fraternité et d'aide auprès des Arabes qu'avec aucun des nôtres. Pendant la réparation, nous nous sommes assis dans la poussière brûlante, buvant le thé qu'on nous avait offert avec le propriétaire du garage qui fumait son narguilé. Et nous avons parlé de la paix. Il disait que, tout autant que nous, il détestait le Hamas. Il semble que beaucoup d'Arabes moyens soient très désireux de la paix et que peut-être on peut croire qu'une fois le Hamas vaincu, comme il semble l'être à Gaza et à Jéricho, il nous serait possible de vivre à Hébron, dans une autonomie palestinienne. Une coexistence qui ne serait rien d'autre que celle que nous avons déjà connue dans le passé. 24 août. Durant tous ces derniers mois, le gouvernement a négocié des accords avec les Palestiniens. Bien que chacun des points affecte très probablement notre vie quotidienne, nous, les gens du peuple, nous ne sommes tenus au courant de rien. L'avenir d'Hébron se joue par-dessus nos têtes. Les Juifs resteront-ils? Dans quelles conditions? Devront-ils s'en aller? Nul ne le sait. Que nous sommes loin du rêve sioniste, de la prédiction biblique où l'on voit les Juifs brandissant l'épée drapée dans le talit, ce châle de prière rituelle, et le téphilim sur le front reprenant possession de leur terre depuis l'Euphrate jusqu'à la mer de la fin des temps, comme il est dit dans Deutéronome 11 au verset 24. Des milliers de Juifs sont venus en Israël, en vain, pour réaliser cette espérance. Mais peut-être, comme le dit Franck, sommes-nous en train de vivre un chapitre de la Bible qu'il reste encore à écrire ? 26 août. Une chose est certaine, le combat entre les autorités palestiniennes et le Hamas sera extrêmement sanglant. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à un vieil homme arabe d'Hébron. Il nous a confié sa peur de l'avenir et Franck lui a promis qu'il pourrait trouver refuge chez nous s'il le fallait. Nous pensons à construire un mur de pierre autour de l'appartement pour nous protéger des tirs. Pour l'heure, on peut aisément nous atteindre depuis les toits des immeubles arabes, de l'autre côté de la colline. Et aussi, nous pourrions de la sorte nous isoler du bruit et avoir un peu plus d'intimité. Ces dernières semaines, les garçons sont allés souvent rendre visite à notre voisin arabe Chalaï. Ce n'est pas facile, car depuis l'affaire de Baruch Goldstein, Chalaï a construit autour de son campement un mur de défense digne d'un camp de concentration, avec des barbelés au sommet. Mais comme les garçons lui ont plusieurs fois ramené ses poulets qui s'éparpillaient dans la nature, il a fini par les faire entrer derrière son mur. Il leur a raconté cette incroyable histoire de vengeance du sang qui vient juste de prendre fin dans sa famille. Il y a très longtemps, un membre de sa famille eut des ennuis avec un autre arabe qui faisait paître son troupeau dans ses vignes. Il lui avait demandé d'éloigner ses bêtes, mais le berger refusa et l'agressa. Le vieil homme fit passer une lettre à son fils en Jordanie, où il racontait comment il avait été battu. Aussitôt, le fils rassembla affaires et familles et revint à Hébron pour venger cette humiliation. Mais lorsqu'il se trouva à son tour en face du berger, celui-ci sortit un couteau et le tua. L'assassin fut capturé, condamné à 12 ans de prison et sa famille paya 11 000 dinars d'indemnité. Mais lorsqu'il fut à nouveau libre, cet entêté n'eut de cesse de se pavaner comme un coq devant leur maison, voulant montrer ainsi qu'il ne craignait pas une vengeance. À l'intérieur de la maison, les jeunes orphelins le regardaient faire et attendaient leur heure. Et c'est l'an dernier seulement, devenu grand pour mettre leur plan à exécution, qu'une nuit, ils s'habillèrent avec des uniformes des forces de sécurité israéliennes et allèrent frapper à la porte de l'assassin. Quand on leur ouvrit, ils dirent qu'ils voulaient l'amener au poste pour lui poser quelques questions et que ça ne prendrait pas longtemps. Sur la route, dans une voiture, ils le poignardèrent et jetèrent son corps. Après quoi, ils rendirent les 11 000 dinars à la famille du mort. Le sang du père étant vengé, les deux clans firent une souilla et les comptes sont désormais épurés. 2 septembre. Ma vieille amie Laura dit qu'elle préfère aller en Australie plutôt que de vivre ici sous la loi palestinienne. À 64 ans, ce ne sera pas facile pour elle de se déraciner à nouveau, de s'extirper de ce réseau étroit de relations et d'amitié qui est devenu désormais Kiryat Arba. D'autres veulent rester, quel qu'en soit le prix. Certains vont même jusqu'à envisager de prendre les armes contre l'OLP avec l'aide des milices. Dans le même instant, s'installent de nouvelles familles françaises et beaucoup investissent des milliers de dollars dans leurs appartements, comme si elles s'apprêtaient à vivre ici pour toujours. C'est aussi la confusion la plus totale quant aux discussions sur le retrait de l'armée. En fait, c'est la politique du gouvernement qui est elle-même dans la confusion la plus totale. Néanmoins, le 18 septembre, nous aurons droit à une nouvelle poignée de main entre Arafat, Rabin et Clinton sur la pelouse de la Maison-Blanche et ce sera le début de la phase 2 des accords de paix. Laura passe ses journées à prier pour que ce décret terrible qui exile les Juifs de leur propre terre soit annulé au dernier moment, comme le fut autrefois en Perse le décret de mort d'Assuérus. 4 septembre. Si seulement je pouvais exprimer la détresse qui s'est abattue sur moi hier. Après 2 mois et demi d'arrêt, je me suis à nouveau assise devant ma machine à écrire, lourde d'une fatigue qui n'était que douleur, les yeux rivés sur le métal et le plastique de la machine, hébétée, attendant une force et une inspiration qui ne viendraient pas. En fait, je n'avais qu'un désir. M'enrouler dans une couverture et me reposer pendant des mois et des mois, boire l'eau fraîche d'un printemps, cueillir les fruits d'un arbre à portée de main et me guérir de ces 15 dernières années, en finir avec ces tâches, ces contraintes et ces soucis permanents qui sapent mes forces, arrêter ce temps brutal qui file entre mes doigts, fait grandir mes enfants plus vite que je ne le voudrais et me vieillit avant l'âge. En vérité, que j'achève ou non mon roman, cela n'a plus aucune importance. J'ai eu le goût de la réussite, mais je sais cependant que rien n'est pire que ces années où je n'ai pas donné aux enfants toute l'attention qu'ils méritaient. Maintenant, je suis heureuse de mettre ma machine à écrire au rancard et de m'allonger tout simplement, tandis que Joshua se repose contre mon épaule, Yossi assis à mes pieds, Samuel sur une chaise tout près, avec Myriam et Esti. Avec Franck, ils sont toute ma vie. 13 septembre. Le drapeau palestinien flotte de nouveau sur l'immeuble des autorités palestiniennes d'Hébron. Des femmes juives était venu l'arracher, des femmes arabes sont intervenues, se battant avec elle. Des policiers se sont interposés et devant son mari ont tabassé violemment Elitcheva Ramati Federman. Il n'empêche, c'est ici notre foyer, c'est ici que nous sommes venus pour planter nos racines. Et donc, nous avons décidé à notre tour d'investir dans le luxe pour notre appartement. Avner Gilboa va nous installer une baignoire. Avner est l'un des hommes les plus sincèrement religieux que je connaisse. Pendant qu'il défonçait l'ancienne douche, il nous rappela que sur la terre, nulle place n'est définitive pour l'homme. Certains croient que ce monde se réduit à ce qu'ils possèdent, dit-il. Leur toit, leur salle de bain, mais ce n'est en vérité que dans l'autre monde que ce qu'ils ont construit leur appartiendra pour toujours. Encore une chose assez douloureuse aujourd'hui et qui nous rappelle que, bien qu'Hébron doive être notre chez nous, nous ne faisons pas, même à Kiryat Arba, partie de la majorité. Joshua, après avoir échappé à la mort dans l'attentat contre l'autocar, a décidé d'aller à la yeshiva et d'avoir une éducation plus religieuse. Nous avons pris des contacts et arrangé pour lui une période d'essai. Les deux premiers jours furent assez difficiles, mais après, il commença de longues journées d'études. Il revenait à la maison tout heureux, la voix chantante, et hier, il nous a dit qu'il souhaitait continuer. Mais voilà qu'aujourd'hui, on nous appelle de la yeshiva. Le principal nous déclare que Joshua ne leur convient pas. Son éducation est trop différente pour eux, comme la morale et les valeurs que nous lui avons inculquées, et ils ne veulent plus le voir. Ses valeurs et sa morale? Parce qu'il vient d'une famille où le père ne porte pas la kippa? Parce qu'il vient d'un foyer idéaliste, où la spiritualité et l'amour d'apprendre ont toute leur place? Parce qu'il n'est pas comme les autres, puisque nous-mêmes ne le sommes pas? Et maintenant, qu'allons-nous pouvoir lui dire pour justifier une pareille mise à l'écart? 17 septembre. Des femmes et des hommes juifs sont entrés dans une école arabe au début de Beth Hadassah pour arracher le drapeau palestinien. Ils l'ont déchiré avant de se battre avec les enseignants et les mères des élèves accourus dans la cour de l'école. De nouveau, la police israélienne est intervenue, frappant encore des femmes juives. Hey Barnes dit que, lorsque le drapeau israélien fut déployé pour la première fois sur Hébron, les Arabes ne s'étaient pas tant excités. Ils avaient la patience d'attendre. Et nous aussi, nous devons avoir cette patience. Les Juifs vivent depuis toujours à Hébron, sous le drapeau des croisés, puis des Anglais, et peut-être bientôt sous celui de la Palestine. Mais il y a tant de colons qui deviennent fous dès qu'ils voient le drapeau de l'OLP quelque part sur les toits de la ville. En fait, alors que demain, à Washington, Rabin et Arafat se serreront la main, ici, plusieurs tendances s'opposent. Les plus durs qui s'apprêtent au cataclysme d'une guerre contre Gog et Magog? Ceux qui espèrent négocier avec les Arabes les meilleures conditions pour continuer à vivre ici? Ceux qui font des plans d'urgence pour vivre ailleurs, même loin d'Israël? Ceux qui attendent des aides de l'État pour pouvoir partir? Ceux qui prient pour le processus de paix pour qu'ils soient miraculeusement anéantis et qu'ils puissent continuer à vivre comme ils l'ont toujours fait? Frank dit tout simplement que nous pourrions vivre en paix avec les Arabes. Nous ne pouvons pas les chasser. Ils ne peuvent pas nous chasser. Nous sommes destinés à vivre ensemble. Ainsi se termine la lecture du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt aux éditions Robert Laffont. À bientôt, amis auditeurs, pour un nouveau livre. Mais n'oubliez pas, Je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.